Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Elles ont osé, proposé par Les Échos. Elles ont osé et elles ont réussi. Elles, c'est nous. Nous, audacieuses, ambitieuses, résilientes, expertes, puissantes, courageuses, peu importe. Nous, telles que nous sommes, libres d'être nous-mêmes, avec nos choix, nos actions, notre impact. Dans ce podcast, vous entendrez le regard croisé de deux femmes inspirantes qui ont su saisir les opportunités de la vie. Deux parcours, deux chemins qui forcément se croisent. Vous découvrirez leurs moments clés pour aller toujours plus haut, être à leur juste place, guidés par leur envie de contribuer à un monde meilleur. Merci d'être avec nous. Je suis Marie-Éloi, entrepreneure et présidente de plusieurs réseaux. Femme des territoires, pour créer son entreprise. Bouge ta boîte, réseau business pour les dirigeantes. Et bouge ton groupe, pour accélérer les carrières des femmes dans les entreprises et les administrations. Aujourd'hui, je reçois deux entrepreneurs qui décapent et utilisent l'humour et leur franc-parler pour porter haut leurs convictions. Deux lauréates du prestigieux Bold Award, décerné par Veuve Clicquot, deux reines du business authentique. Bonjour Chanty Bahurel.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice et CEO de Chanty Biscuits, la marque de biscuits personnalisés et fournisseuse officielle des plus grandes marques. Vous êtes complètement autodidacte et vous vous démarquez par vos biscuits au message très drôle, j'en cite quelques-uns. Étouffe-toi, tu déchires meuf, c'était moins cher qu'une Rolex, ou un qui correspond bien à ce podcast, tu es une bosse. Et vous avez réussi à fédérer une communauté de plus de 150 000 personnes. Chanty Biscuits, c'est aujourd'hui 17 collaborateurs, une usine à Aix-en-Provence, plus de 3 millions de biscuits produits chaque année et une rentabilité depuis le premier jour. Je tiens à préciser que votre surnom, c'est la Bisqueen, la queen des biscuits, et que vous avez régulièrement les cheveux bleus, roses, verts ou violets. Bonjour Christelle Gimaret.
Bonjour Marie.
Alors vous êtes la CEO et fondatrice de EcoClean, anciennement Artupox, entreprise experte notamment du nettoyage des sites professionnels avec des produits écologiques et depuis peu auprès des particuliers, notamment avec votre appli EcoClean On Demand. D'abord chercheuse en mathématiques, vous êtes devenue entrepreneur en 2005, depuis récompensée par de nombreuses distinctions dont chevaleresse de l'ordre du mérite. Partie de rien, vous aussi, à part votre énergie. EcoClean, c'est aujourd'hui 3000 salariés dans 4 pays, la France, le Danemark, le Canada et la Suède. Alors vous, Christelle, vous n'avez pas encore de surnom, mais la Biz Queen, la reine du business, ça peut peut-être aller très bien aussi pour vous. Ensemble, Christelle Gimaret, Chanty Bahurel, j'espère qu'on vous donnera envie, à vous qui nous écoutez, d'accepter la grande aventure d'être vous-même, comme le disait si bien Simone de Beauvoir. Chanty, Christelle, je vous propose de partager avec nous chacune un moment clé, celui qui vous a fait prendre un premier virage dans votre parcours, puis nous échangerons en regard croisé sur vos défis respectifs. Chanty, on commence avec vous. Alors vous êtes née à Paris, puis vous avez grandi à Aix-en-Provence dès l'âge de 5 ans. Votre rêve petite était de devenir styliste ou de travailler dans le domaine artistique. Mais vous n'étiez pas très fan du lycée, vous décidez donc de travailler directement, une fois le bac en poche, c'est ça ?
Oui, en fait, c'est plutôt que fin du lycée, j'ai fait une petite dépression et je me suis inscrite nulle part après le lycée. Enfin, je me suis inscrite dans aucune école, aucune fac et j'étais là-bas. Qu'est-ce que je vais faire ? J'ai pas d'idée, je sais pas ce que j'aime, je sais pas ce que j'ai envie de faire. Et donc, j'ai trouvé un travail... alimentaire, dans une boîte à Aix qui faisait des éclairages. Alors c'était un truc très technique, mais j'étais au montage, opératrice, je fabriquais, je contrôlais les livraisons, etc.
Et vous y êtes restée dans cette boîte parce que quelques années plus tard, c'est votre anniversaire, vos 24 ans, et un sacré anniversaire puisque ça déclenche tout. Est-ce que vous pouvez nous raconter ?
Exactement, c'est l'anniversaire qui a changé ma vie. En fait, donc je fais une petite soirée et on m'offre un kit avec plein d'accessoires de cuisine rigolo. Et dans ces accessoires, il y a un tampon à biscuits. Et sur le tampon, il y a marqué « Approuvé par le chef ». Donc je fais les biscuits et je me suis dit « C'est marrant d'avoir un message sur un biscuit, mais approuvé par le chef, c'est nul. Je ne peux pas offrir des biscuits à quelqu'un avec marqué ça dessus. En plus, un chef ne les aurait pas approuvés. »
En plus, chef sans deux FE.
En plus. Et je me suis dit « Ça aurait été mieux si j'avais pu choisir le message. » Et moi, j'adore faire des cadeaux personnalisés, donc je me suis imaginé les offrir à tous mes potes, chacun avec sa petite blague, etc. Et j'ai regardé si ça existait, j'ai vu que ça n'existait pas. Donc à l'époque, on est fin 2012. Et je me suis dit, bah, c'est trop génial, il faut que ça existe, je vais le faire. Mais je ne me suis pas dit, je vais monter une boîte, je vais faire un business plan, etc. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire.
Mais vous aimez bien cuisiner ?
Non, je déteste.
Donc il n'y avait rien pour vous au départ quand même.
Si, la partie personnalisation. C'était ça qui m'amusait, moi. J'adore écrire, jouer avec les mots, écrire des cartes, etc. Donc, c'est plus les mots et le support fun. Après, j'adore manger des gâteaux. Je pourrais manger que des pâtisseries, ça ne me dérangerait pas. Mais j'aime pas spécialement cuisiner. Du coup, j'ai fait des biscuits pendant 6 mois dans mon appartement. Donc, spécialisation biscuits, rien d'autre.
Dans votre cuisine.
Exactement. Donc, j'ai fait des tests, je m'amusais. Et en fait, j'avais acheté un petit kit où il y avait une réglette pour mettre des lettres. Donc, je pouvais le faire au rouleau à pâtisserie de chez moi, quoi. Donc, pendant 6 mois, je teste, je réfléchis au concept, etc. Et à l'époque, il n'y avait pas tout, les podcasts, l'entrepreneuriat. Il y avait à peine Instagram. Donc, c'était un milieu qui était hyper loin, que je ne connaissais pas du tout. Donc, je ne me suis pas dit, je monte une boîte, rien de tout. Je me suis dit, ça m'amuse, je vais le faire en mode... Je vais rendre ce truc réel, mais...
En plus du travail.
Oui, à ce moment-là, j'étais passée à mi-temps, donc j'avais du temps aussi, et je me disais, c'est parfait, en fait, ça va m'occuper.
Et un jour, votre boss vous convoque ?
Exactement. Alors, en fait, dans la chronologie, c'est que je commence à vendre les biscuits. Alors, pour démarrer, j'ai acheté un logo. Enfin, on m'a fait un logo pour 120 euros. Enfin, seule dépense du début de l'histoire. Et j'ai ma meilleure amie qui se mariait à un web designer. Et ils m'ont dit, si tu nous fais les biscuits pour le mariage, on te fait un site. Donc voilà, j'avais un site qui vendait et vu que moi, le business model, c'est que les gens commandent sur le site, ensuite je fabrique et je livre. J'ai pas d'intermédiaire, j'ai pas de stock. Donc en fait, je faisais ma vie, j'avais une commande qui tombait, je la faisais, je l'envoyais quoi. Et 6 mois après, à peu près, ma boss m'a dit, maintenant on a besoin d'un temps plein. Donc c'est temps plein ou rupture conventionnelle. J'ai un peu avancé dans l'histoire. et moi, je n'en vivais pas du tout à ce moment-là. Je ne savais pas quoi faire. Mon père qui me dit, tu ne vas pas dire non à un CDI, tu feras les biscuits le week-end. Moi, je me dis, je n'aurai jamais le temps le week-end. Mais en même temps, je n'en vis pas. Qu'est-ce que tu fais? J'ai complètement perdu. Je me fais larguer par mon mec. Enfin bref, je suis Et ma boss me dit à un moment donné, vous avez réfléchi, chantier? Non, je ne sais pas quoi faire. Et donc, elle me prend dans son bureau. Et elle me dit, écoutez, moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai besoin que vous restiez. Donc, et vous travaillez bien depuis des années, etc. Mais pour vous, faites les biscuits, c'est génial, ça vaut le coup. Eux, ça faisait 10 ans. Enfin, c'était un couple qui avait monté la boîte. Ça faisait 10 ans. Elle m'avait dit, c'est dur, mais c'est génial. Votre idée, elle est super. Tentez-le, sinon, vous allez le regretter.
Quelle chance.
Ouais. Et maintenant, j'essaie de faire toujours ça avec mon équipe et de dire... C'est eux la priorité, c'est pas chantier biscuit quoi.
Et elle a bien fait votre boss parce que depuis, donc, c'est plus de 3 millions de biscuits fabriqués, on est bien loin de la cuisine. Mmh. On y reviendra tout à l'heure. Christelle, à vous. Alors vous avez grandi à Lyon auprès d'un grand-père adoré, un chef d'entreprise à l'ancienne, si j'ai bien compris, à la tête d'une usine. C'est aussi l'inventeur du polyuréthane, ces billes de plastique. Et vous, petite, vous aimez plus que tout être dans l'usine ou jouer à la patronne. Est-ce que vous pouvez nous partager rapidement un souvenir de cette enfance?
Oui, effectivement, ça peut paraître paradoxal à l'heure où, enfin, à l'âge où les gens, les petites filles en l'occurrence, jouent plutôt à la poupée. Moi, je jouais au chef. Voilà, parce que mon grand-père était un peu charismatique, il engueulait tout le monde et moi, je trouvais ça formidable.
À la Louis de Funès, c'est
à
ça?
À la Louis de Funès, exactement, c'est-à-dire un grand gouailleur, mais au cœur tendre, finalement. Et moi, je voulais être chef. Plus grande, je serais chef. Je m'étais toujours dit ça. Et du coup, je déambulais dès que je sortais de l'école, puisque mes parents travaillant, ils m'amenaient chez les grands-parents, qui étaient la maison d'à côté. Et du coup, je déambulais dans les usines, dans les linéaires de l'usine. Et je voyais ces gens se faire engueuler. Je trouvais ça formidable.
Mais quelle horreur.
Mais oui, là, maintenant, avec le recul, je dis quelle horreur. Mais je sais pas. Il avait une stature, il en imposait. Et je me suis dit, quand je serais grande, j'en imposerais. Voilà.
Et puis, vous aviez même créé votre propre bureau ?
Ah oui. Alors ça, c'est venu, là, je vous parle, je devais avoir 3-4 ans. Et vers l'âge de 6-7 ans,
ça a
évolué. J'avais récupéré une plaque, vous savez, à l'arrière du chocolat, il y avait des plaques, en fait, en carton. Je l'avais pliée en deux, donc j'avais fait un chevalet. J'avais écrit Christelle Gimaret, PDG. Et je faisais toquer à la porte de ma chambre mes parents, ma sœur, ma famille. Et tant que je ne disais pas entrer, ils n'avaient pas le droit de rentrer. Voilà. Donc j'étais déjà un petit peu chef. Voilà.
L'usine familiale est pourtant vendue quand vous êtes toute jeune. Et puis vous continuez votre chemin, votre premier moment clé, vous êtes docteur en mathématiques appliquées en économétrie et professeur de mathématiques depuis une dizaine d'années, vous avez 31 ans, et un jour, vous vous rendez compte que vous n'êtes plus du tout à votre place et que devenir chef, finalement, ça vous titille toujours. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce moment où vous êtes en classe et tout change?
Alors, il y a un moment, alors je serais incapable de vous dire si c'était le matin ou l'après-midi, mais il me semble bien que c'était genre juste après la pause déjeuner, où j'arrive en classe et là, je me dis « mais qu'est-ce que je fais là, quoi ?»
Devant les élèves.
Et là, devant les élèves, il n'y avait pas un mot qui sortait de ma bouche. Et là, je me dis « bon, bah, je les mets en interro. » Voilà, donc je les colle, voilà. Et là, j'ai 2 heures sur lesquelles je ne veux pas entendre une mouche voler. Et là, je fais l'introspection et là, je me dis, c'est plus possible, il faut que je quitte ce job.
Vous ne les supportez plus?
Alors, ce n'est pas que je ne les supporte plus, c'est que je ne supporte plus mon état d'esprit, en fait. C'est-à-dire que l'impression de ne plus être au bon endroit au bon moment. Et du coup, j'étais apparemment, d'après ma hiérarchie, d'après les élèves, plutôt une bonne prof. Et là, je sentais vraiment que je faisais... pas n'importe quoi, mais ça devenait n'importe quoi et je devenais une prof comme je détestais. Donc, je n'étais plus à ma place. Et pour autant, je n'étais pas encore à ma vraie place. Donc là, je me suis dit stop. Là, il faut que j'arrête. Donc ça, j'ai de la chance parce que ce moment-là, il se passe à mai-juin. Donc, j'ai pas eu à attendre longtemps pour que la fin de l'année s'arrête. Et que
qu'est-ce qui se passe après?
Alors, qu'est-ce qui se passe après? Je voyage, parce que c'est ma passion, les voyages. Alors, je compense beaucoup mon bilan carbone, hein, je préfère le préciser. Et je vais à Dubaï. Et là, à Dubaï, j'hallucine parce que l'aéroport, il est tellement propre. Mais vous pouvez manger par terre. Et je voyais des salariés nettoyer même des boulons d'une poutre qui était à 6 mètres du sol. Et là, je me suis dit, mais c'est des grands malades, ils nettoient tout et tout. Et en même temps, je me dis, mais c'est génial, c'est ce qu'il nous faut en France. Et là, l'idée, elle était partie. Et là, je me suis dit, je vais ouvrir la première agence de propreté sur laquelle on fait intervenir les gens de jour, on les voit nettoyer et sur lesquelles ce sera enfin propre.
Et vous étiez fan du ménage auparavant ?
Ah, pas du tout. Pas
du tout. Peut-on être fan du ménage ?
Alors, moi, j'ai toujours été fan de entrepreneuriat. Et entrepreneuriat, pour moi, qu'on ait une usine de boulons, de polyuréthane ou une boîte de service, c'est le même métier. Et ça fait beaucoup rire mes amis parce que évidemment dans tous les dîners on me dit je me suis fait une tache sur mon canapé, sur ma veste, machin, avec quoi j'enlève. Comment te dire, je ne sais pas. Voilà. Mais je lui dis par contre tu peux appeler mon manager, je suis sûre qu'il a une réponse adaptée.
Pourquoi vous avez attendu aussi longtemps, 10 ans, avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat puisque vous saviez depuis petite que c'est ce que vous vouliez faire?
Parce que pour moi, lorsqu'on se lance dans quelque chose, la réussite, c'est pas une option. Et monter une boîte pour monter une boîte, c'est un peu le problème de tous ces jeunes actuellement. C'est qu'on se dit, bon bah voilà, allez, je sais pas quoi faire, je monte une boîte. Monter une boîte, c'est un vrai, vrai métier. Et si vous n'avez pas une vraie, vraie idée, et si vous ne changez pas les lignes, ça sert à rien, en fait. Et en fait, être chef d'entreprise, pour moi, c'est un héros des temps modernes. Donc, il faut vraiment apporter sa pierre à l'édifice et faire bouger les lignes. Donc, tant que je n'avais pas cette idée-là qui allait être révolutionnaire, puisque voilà, on a quand même impacté les gens sur leur vie sociale, dans le fait où on les faisait travailler que 2 jours. Vous avez leur week-end avec des produits écologiques. Je parle de 2005, hein, les produits écologiques, ça n'existe quasiment pas. Je les faisais venir d'Allemagne à l'époque. Et tout ça, c'est ce qui a fait le succès d'Artupox à l'époque et Ecoclean maintenant.
Et aujourd'hui,
c'est cet ADN fibre sociale, environnementale et écologique.
Et aujourd'hui, c'est 3000 salariés. Chanty Baherel, Christelle Gimaret, je vous propose d'échanger sur vos parcours d'entrepreneur en regard croisé, les opportunités que vous avez saisies, vos prises de risques maximales, ce qui a construit vos moments de succès, vos difficultés, ce que vous avez dû défendre. Et nous clôturerons ce podcast par un portrait chinois. Est-ce que vous pouvez partager avec nous le moment magique du premier client, celui qui y croit vraiment? Chanty, on a compris, c'est d'abord le mariage de votre sœur.
Ouais, c'est pas vraiment un client.
Alors le vrai client, racontez-nous.
Mais donc moi c'était, donc je réfléchis au concept, etc. Le mari de ma meilleure amie me fait un site et le jour où le site est prêt, je mets en ligne, je partage ma page Facebook et le lendemain, j'ai eu une commande sur le site d'une personne que je ne connaissais pas. Parce que je me suis dit, les clients au début, ça va être les potes de potes. Et c'était quelqu'un, je me rappelle, à Annecy. Donc c'est vraiment pas autour de chez moi qui avait commandé 100 euros de biscuits. En plus, c'était même pas 10 euros, quoi. Et là, je me suis dit, s'il y a quelqu'un qui peut acheter, c'est incroyable. Quelqu'un que je ne connais pas a acheté un truc que j'ai fait, que j'ai créé. Et c'était magique. C'était incroyable. Je me rappelle, c'était des biscuits Bonne Fête des Mères et tout.
Et est-ce que vous aviez pensé à ce moment-là à proposer des biscuits aux entreprises, ce que vous faites beaucoup aujourd'hui?
Ah non. Moi, ça a mis des années. Moi, en fait, quand j'ai démarré, bon, j'avais la vision du côté cadeau, blague que tu peux faire et de la partie mariage, vu que j'avais pas mal de mariages autour de moi. Et donc, au début, j'ai vraiment orienté mariage, baptême, ce qui était une bonne idée parce que mariage, bah, t'as plus gros volume de commandes, plein d'invités qui vont découvrir. C'est un petit milieu, etc., où tu peux te faire connaître facilement. Et je suis arrivée au bon moment, au moment où les gens commençaient à chercher autre chose que les dragées. On voulait des mariages un peu plus modernes. Donc, bon moment, bon timing. Et c'est qu'après, où, quand j'ai eu des entreprises qui m'ont commandé des biscuits, je me suis dit « Ah ouais, c'est vrai !» Et en fait, mais très régulièrement, on a des commandes. Et en fait, on se dit « Ah, c'est vrai, pour cette utilisation-là, on peut aussi mettre des biscuits. » Donc, c'est les clients qui nous donnent des idées.
D'ailleurs, moi, quand je suis allée ouvrir un bouche-ta-boîte dans l'Est de la France, je ne sais plus dans quelle ville, j'étais arrivée et il y avait des biscuits bouche-ta-boîte. J'avais été accueillie par l'agence avec des biscuits bouche-ta-boîte. Et c'est comme ça que je vous ai connue. C'est vraiment, on apprend en marchant, en fait. C'est-à-dire au début, les mariages, puis les le site internet.
Appris, au fur et à mesure, hein. j'ai avancé un peu à vue. Quoi. J'ai un problème, comment je le résous? Ok, j'ai un autre problème, comment je le résous? Là, je veux faire ça, bah, comment je fais, etc. Quoi.
Avec une patte qui est propre à vous, c'est votre humour. Comment ça a démarré?
Alors, c'est pas un truc que j'ai eu
tout de suite,
qui a été réfléchi sur Chantier Biscuit. On n'a pas fait de plateforme de marque, on n'a pas dit c'est quoi les valeurs, la stratégie, etc. j'ai fait, en fait, au fur et à mesure. Par contre, moi, c'est un truc que j'aime faire. Enfin, c'est comme ça que quand je fais des biscuits à mes potes, je cherche une blague. Enfin, c'est ça que j'aime faire, ou trouver ce qui va toucher la personne. C'est la meilleure partie du business. Et en fait, au début, même sur les réseaux sociaux, je postais juste les photos des biscuits que les gens commandaient. Donc, c'était très « je t'aime », »,« joyeux anniversaire ».
J'ai fait ça, moi.
Voilà, bah, c'est 90% des commandes, c'est ça.
Pas d'originalité.
Bah, après, c'est le plus facile à offrir. Je ne vais pas critiquer les clients. Mais... J'ai eu un déclic un jour, mais c'était 2017, donc ça a mis du temps. Il y a une fille qui nous envoie un message sur Facebook et qui dit « J'ai découvert votre concept, je vais l'utiliser pour larguer mon mec ». Je me suis dit, c'est un génie. Et elle a commandé des biscuits avec marqué « Je te quitte ». Vraie commande. Et nous, ça nous a fait rire. Et on s'est dit, elle aurait dû aller encore plus loin et faire des biscuits « Je te quitte, connard » ou un truc comme ça. Et donc, on a eu cette idée. Et c'est un des premiers biscuits que j'ai fabriqué exprès pour poster sur Instagram. Je l'ai posté et là, c'était incroyable. Enfin, il y a eu une vague de partage, de blogs, etc. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça qui m'amuse, moi. C'est mettre des biscuits avec des messages du quotidien, des messages inattendus et tout type de messages. Et en fait, c'est ce que j'ai commencé à véhiculer sur Insta. Et même moi, c'est ce que j'adore, en fait. Donc, c'est comme ça que la marque s'est créée. Et même... Encore aujourd'hui, je ne saurais pas vraiment définir c'est quoi le manifeste Chantier Biscuit, les valeurs, etc. En fait, c'est une marque vivante, je ne sais pas. ça se crée au fur et à mesure.
Et vous l'incarnez parfaitement en faisant des vidéos un peu déjantées, des messages déjantés. Voilà. Et c'est ça qui donne tout l'ADN à la marque.
Et comme c'est un produit personnalisé, il faut aussi que ça reste très large et que... Tout le monde peut piocher de ce qu'il veut dans Chantier Biscuit. On peut aussi mettre des messages mignons, comme des messages un peu plus trash, toutes les occasions. Et c'est une marque que plein de gens peuvent percevoir de façon différente. Il y en a qui sont plus touchés par le côté entrepreneuriat à partir de rien, plus sur les messages. Certains, c'est le côté biscuit. Enfin, c'est une marque assez large.
Et vous, Christelle, votre premier client, est-ce que vous vous en souvenez? Christelle Gimaret.
Ah oui, je m'en souviens, ouais. Alors, en fait, donc, j'avais lancé, donc, ça s'appelait Artupox à l'époque, c'était l'art de tuer les microbes. Et parce qu'on s'était dit, voilà, si un jour on va à l'international, puisque moi, dès le début, je me suis dit, je monte Coca-Cola, hein. Sinon, j'y vais pas. Voilà, une fois qu'on a posé ça, qu'on a déposé les statuts, etc., bah, il faut des clients. Et puis, bah, les clients, bah, au début, c'est un peu.
Faut aller les chercher.
Faut aller les chercher. Et puis surtout, il faut atteindre une certaine volumétrie, parce que sinon, bah, il se passe pas grand-chose, quoi. Et donc, évidemment, bah, comme tout chef d'entreprise, j'ai des hauts, j'ai des bas. Et puis, quand on a des bas et qu'on est une femme, on va chez le coiffeur. Voilà.
C'est vrai.
Voilà. Donc là, je vais chez le coiffeur et puis ça se passe, etc. Puis là, il y a un mec, sosie de Johnny Hallyday, qui rentre, enfin, qui venait de garer sa moto ultra bruyante. Enfin, vraiment, c'est Johnny, le mec. Et qui dit, bon alors, les filles, cette boîte de ménage, on en est où? Et là, les filles, ben, on ne sait pas, si, on va peut-être faire un essai, mais la personne ne nous a pas rappelé. Et là, je me suis dit, c'est la chance de ma vie. J'avais juste déposé les statuts. Hein. Et là, je suis désolée, j'écoute pas, hein, mais en même temps, vu que tu brailles, je peux faire que t'entendre. j'ai une boîte de ménage, et si vous voulez, on en parle. Le mec, ah, mais c'est génial et tout, et je pensais que c'était pour ce salon-là. Et en fait, non, le mec, en fait, il avait une chaîne de coiffure, et il y avait 17 salons. Donc voilà, donc là c'est parti
c'est
comme
le
ça.
Destin.
Sauf que quand je suis ressortie de chez le coiffeur, je suis rentrée chez moi, enfin dans mes bureaux, parce que au début hein, on bricole. Et là je me suis dit, oh punaise, comment je vais faire? Ouïouïouï, et bah c'est pas grave. Et
vous
là
n'aviez
j'ai
rien.
Appelé, j'ai appelé, j'avais rien.
Ah, moi, j'ai même
et là
histoire,
je vois un laveur de carreaux dans la rue. Un black sublime qui était très attentionné avec la petite raclette et tout. Et là, carrément, je le top et je lui dis, voilà, est-ce que vous voulez bosser? Je vous donne ma carte. Parce qu'en fait, au début, en 2005, on n'a que des cartes de visite. Le mec m'a appelé, il était intéressé. Et puis, il m'a ramené toute sa communauté. Ça a commencé comme ça, l'aventure Artupox.
Et vous êtes allé acheter du matériel parce que vous n'avez rien non plus?
Ah, mais j'avais rien. Et le mec, je lui ai même demandé ce qu'il fallait que j'achète.
moi, c'est pareil, j'avais signé une commande de 30 000 biscuits, j'avais aucune machine, etc. Je leur ai dit, oui, je vais vous livrer.
Mais
j'ai
le
trouvé
pire,
des potes. Et tout.
Mais le pire, c'est que ça passe. Et, et que ça se déroule.
Parce que les gens se disent pas, il n'y a rien derrière.
Mais jamais de la vie. Et puis, je pense aussi que le business, c'est surtout beaucoup, beaucoup de chance. Il faut être là au bon endroit, au bon endroit.
Et en même temps, vous l'avez provoqué.
Ah, oui, il faut toujours aller chez le coiffeur.
Ah, mais même d'aller parler au mec, de lui proposer. Ouais.
Évidemment. Ouais. Ah, en fait, je crois que le secret de l'entrepreneuriat, c'est de toujours parler de ce que l'on fait à tout le monde. Alors au début, c'est un peu monomaniaque. Hein. Moi, j'avais même saoulé mon chien. Hein. Mais bon, ça marche. Voilà. Et puis, il y a beaucoup aussi cette part de chance. Et, voilà. Et surtout, saisir la chance. Parce que le mec, quand il m'a dit qu'il y a 17 salons, j'aurais pu très bien lui dire bah non, on va commencer par celui-ci, puis vous nous direz après. Non, moi, allez, 17, bingo.
Seulement 17.
Mais ça s'est super bien passé, c'est ça le pire. Ou
donc,
le mieux.
Voir les opportunités, savoir les voir, et ensuite savoir les saisir.
Et puis après, c'est là où on s'organise. C'est quand tu es obligé de livrer le client.
Mais de toute façon, tu n'as pas le choix.
Sinon, tu te mets jamais dans le truc.
C'est ça. Tu n'as pas le choix. Tu y vas.
Dans votre parcours d'entrepreneur, quand est-ce que vous avez senti que vous étiez sur la bonne voie, que vous alliez pouvoir passer à l'étape du dessus?
Moi, ça me l'a fait à peu près... un an et demi, deux ans après le démarrage, quand j'ai commencé. Donc, je faisais vraiment les biscuits à la main dans mon appartement. Au
vous aviez le droit, d'ailleurs, de faire des biscuits dans...
Oui.
Vous aviez vérifié?
J'avais appelé, à l'époque, la chambre de l'artisanat, un truc comme ça, de ma ville. J'avais demandé. Il m'avait dit oui, j'ai pas cherché à comprendre.
Donc, vous avez continué.
Ok, c'est bon. On m'a dit oui. Et bon, en vrai, je sais pas trop...
Non, ça doit être légal parce que Michel et Augustin ont commencé aussi dans
voilà.
La cuisine.
Non, mais c'est comme si, oui. Après, c'est des tailles, c'est des clients. Si tu vends chez Monop, c'est pas pareil. Bref. Mais moi, quelqu'un m'a dit oui. Je fais bah. En fait, c'est la différence aussi, c'est que les biscuits, c'est un des produits alimentaires avec le moins de normes qui existent parce qu'il y a pas de risque que ça tourne, il y a pas de crème, il y a pas de froid.
Et donc, vous étiez dans votre cuisine.
Oui, donc je suis dans ma cuisine à tout faire à la main. Et Noël 2014, là, je commence à avoir trop de commandes et je me dis, ça continue à grandir comme ça, je ne peux plus faire toute seule. Et c'est là où je me suis dit, il y a un truc à faire. Vu que c'est en train de me dépasser ce qui est en train de se passer, il y a peut-être une vraie entreprise à faire.
Alors, vous étiez déjà en entreprise. Mais vous voulez dire un autre statut, c'est ça?
En fait, moi, j'étais auto-entrepreneur, mais je pouvais même pas dire que j'ai ma boîte. Moi, je dis, je fais des biscuits.
Et pourtant, vous étiez entrepreneur déjà.
Oui, mais je ne l'assumais pas du tout. Bah, j'étais là, même quand on me demandait ce que je faisais, je fais des biscuits, voilà. Et c'est là où je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire, parce que quoi qu'il arrive, il me faut quelqu'un en plus pour m'aider. Donc si je passe de 1 à 2 ou même 3, là c'est vrai quoi, là c'est un vrai truc.
Et un vrai truc pour vous, ça voulait dire quoi? Qu'est-ce que vous avez changé?
Après, c'était de sortir de chez moi et d'avoir quelqu'un avec moi. Déjà, ça me paraissait plus vrai que d'être moi toute seule dans mon appart.
À tout mélanger, le pro, le verso?
Ah oui, il n'y a pas de limite. Bah, c'est d'être dans mon appart. J'étais auto-entrepreneur, donc tout venait sur mon compte perso. Je n'ai aucune idée de... des bénéfices, de la différence.
Pas de budget.
Je savais que j'en vivais, quoi, c'est tout.
Et donc, qu'est-ce qui se passe, 2015?
Et donc, là, je me dis, moi, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment on recrute, comment on trouve un loyer. Je ne sais même pas si je gagne assez. Je ne sais pas comment je dois acheter des machines, j'y connais rien, etc. Je me dis, il faut que quelqu'un m'aide. Et là, j'ai pensé qu'à une seule personne de mon entourage, parce que du coup, je ne viens pas du tout d'un milieu entrepreneur, ni pas du tout business, pas un poil business autour de moi, sauf une personne qui était le frère de ma meilleure amie. Et lui, il était expert comptable, gestionnaire de patrimoine, tout ça, donc il s'occupait d'entrepreneurs. Et à chaque fois que je le croisais, il adorait Chantilly Biscuit, me demandait des nouvelles tout le temps et tout. Et du coup, je l'ai appelé et je lui ai dit, est-ce que tu peux m'aider? Je ne sais pas comment faire, quoi. Et il m'a dit, grave, j'y crois trop à Chantilly Biscuit, c'est génial et tout. Par contre, je n'ai pas le temps. Donc, j'ai un pote à Paris qui bosse en finance et qui veut arrêter son job dans sa grande boîte pour devenir entrepreneur. Si tu veux, je te le présente. Donc, je dis, ah ben, génial. Donc, on va à Paris. Donc, ce mec est à Paris. On va à Paris, on prend un café tous les trois et je dis, OK, ben, on s'associe. Voilà, ne jamais faire.
À l'époque, on parlait peu encore d'entrepreneuriat en 2015. Ça commençait tout juste.
En fait, moi, je me dis, des gens sont prêts à m'aider. C'est limite, prenez ce que vous voulez pour m'aider, quoi. Mais aidez-moi. Et en fait, je me dis, je fais confiance. Eux, ils savent faire.
Vous leur donnez des parts du capital?
Je leur donne 40% à eux deux, ouais.
Ce qui est gigantesque.
Je savais pas, en fait.
Donner?
Bah, je leur ai vendu pour 5000 euros, quoi.
Ah oui, oui, j'ai donné.
Mais moi, j'étais trop contente. En fait, moi, je me suis jamais sentie mal. Je me suis pas dit, je me fais arnaquer. Moi, je me dis, c'est génial, ils vont m'aider.
Mais bien sûr, mais c'est une erreur de débutant,
ça,
de beaucoup.
Ils se sentent impliqués, etc. Après, le problème, c'est qu'on n'a pas... Enfin, le problème. En même temps, ça s'était pas passé, j'en serais pas là. Hein. Donc, c'est qu'on n'a pas pris le temps de se connaître, de travailler ensemble. C'était plus ça, quoi.
Mais ça démarre souvent comme ça, les entreprises.
Mais après, en même temps, j'ai appris la leçon très tôt et je regrette pas, hein, maintenant.
Et vous, Christelle, le moment où vous avez senti que vous pouviez passer à l'étape du dessus, c'était un moment d'abord de désespérance absolue, c'est ça? C'était peu après le confinement, toutes vos activités sont à l'arrêt. Vous envisagez le pire et là, vous regardez votre Apple Watch.
Alors
teasing,
la chute.
Alors, il y a eu... Là, on passe de 2005 à 2020. Évidemment, en 15 ans, il s'est passé beaucoup de moments magiques et de moments de grand désespoir. Mais le plus marquant, effectivement, c'est celui-ci, puisque c'est celui qui va nous faire pivoter et passer de 150 salariés à 3000. Donc, on est 48 heures après l'annonce du confinement, où là, effectivement, j'ouvre même plus mon ordi, parce qu'à chaque fois, c'est que des lettres de « j'arrête les prestations, on n'a plus de salariés, on a fait faillite, etc. » Enfin, bon, bref, c'est la loose totale. Donc là, je me pose sur mon canapé, puis je me dis, bon, bah, maintenant que j'ai fait faillite, qu'est-ce que je vais faire? On est quand même, on est en état de sidération, donc on pense un peu n'importe comment et n'importe quoi. Et là, mon Apple Watch sonne. Et je ne sais pas pourquoi, je ne décroche jamais au numéro inconnu, mais là, je ne sais pas, je me dis, de toute façon, ça doit être encore un qui m'appelle pour me dire, on arrête tout, etc. Donc je décroche. Et là, en fait, pas du tout. En fait, pas du tout. C'était la direction d'Airbnb qui me demandait, en fait, comme on avait quand même eu la bonne idée de mettre en ligne notre protocole sanitaire, puisque nous étions une des rares entreprises à avoir fait du trafic de masques. Hein, parce qu'à l'époque, je vous rappelle que personne n'avait le droit d'acheter des masques, mais nous en avions trouvé pour protéger nos salariés et nos clients. Donc, j'avais eu la bonne idée de me dire, je vais absorber ma faillite par la vente de kits sanitaires, donc avec du gel hydroalcoolique, des masques, des gants et puis surtout un petit gel Covicide à barrière active. Et ça, ce truc-là a beaucoup plu à Airbnb qui me dit, voilà, il faut que vous nous aidiez, il faut qu'on sauve les locations et vous avez des produits, nous on est les apparts.
700 000 logements, hein, Airbnb.
700 000 logements, ouais. Donc à votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Là, je leur ai dit, je vous rappelle en 48 heures. Et là, évidemment, je raccroche. Évidemment, je me dis, mais qu'est-ce que je me suis encore... Mais dans quoi je me suis embarquée? Et là, j'appelle mon associé Julien, qui est au Canada.
Julien Vasseur.
Et là, je lui dis, Julien, bon, bah c'est bon. J'ai le client pour l'idée qu'on avait. Il me dit, quelle idée? Parce qu'évidemment, des idées, on en a 25 par jour avec lui. Donc, Et là, je lui dis, bah tu te rappelles, on voulait faire EcoClean on demand. Il me dit, ah bon, et tout, t'as qui comme client? Je dis, bah, un tout petit client, Airbnb. Donc là, il saute de joie. Et là, il me dit, bah oui, évidemment, on y va. Attends, je te rappelle, on met en place les techniciens. On va coder toute la nuit, t'inquiète pas. Dis-leur qu'on est prêt dans un mois. Moi, je les rappelle, super sûr de moi. Nous sommes prêts dans un mois. Eux, tout contents, etc. Et en fait, on a sorti l'appli EcoClean on Demand en moins d'un mois. Et tout ça, bah, grâce au concours bancaire quand même, puisqu'on est allé les voir. Et on leur a dit, bah voilà, on a besoin de sous. Combien vous voulez? J'ai dit, bah, 1 million. Ils m'ont dit, bah, ok. J'ai dit, bah, tant mieux. Et puis, c'est parti.
Et voilà. Ça, c'était votre prise de risque maximale de demander. Vous n'aviez jamais demandé d'argent jusqu'à présent. C'était rentable, EcoClean.
Alors, EcoClean a toujours été rentable dès le premier jour. Et nous n'avions jamais même une ligne de découvert. On n'a jamais été à découvert, jamais une levée de fonds, rien du tout. Et tout d'un coup, j'appelle mon banquier qui me dit, ok, bah, écoute, t'as jamais rien demandé. Pourquoi pas? Combien tu veux? J'ai dit, bah, 1 million. Ah oui, quand même. Je dis, oui, mais encore, c'est rien, tu vois, je vais t'en demander plus après. Et voilà, et c'est parti comme ça.
Et vous êtes passé de 150 salariés à 3000 salariés.
Pour expliquer ce gap, en fait, il faut savoir que EcoClean, ce n'était que de l'Île-de-France. Et là, comme nous sommes passés sur la version B2B2C ou B2C, c'est une appli, donc c'est partout en France et c'est en simultané partout au Canada. Donc là, forcément, il faut fournir. Mais je vais peut-être vous choquer, mais 3000 salariés, ça ne suffit pas. Là, l'ambition, c'est nous levons des fonds pour passer à 20 000 salariés.
Est-ce que vous aviez eu peur lors de la demande du prêt de 1 million, sachant que vous étiez caution personnelle en plus à ce moment-là? Est-ce que vous avez eu peur?
J'ai surtout eu peur qu'ils disent non, parce que pour moi, il n'y a pas de problème. J'avais un contrat Airbnb, un accord cadre. Dans la foulée, il y en a plein d'autres qui s'y sont mis, genre EDF, AXA, etc. Donc, il n'y avait pas de raison. Enfin, j'avais surtout peur qu'ils disent non, parce que sinon, ça aurait été compliqué d'expliquer ça à Airbnb, quoi.
En fait, il fallait foncer, c'est votre état d'esprit de foncer.
Alors, il ne faut pas confondre risque et danger. Moi, j'aime faire des prises de risque, mais jamais en me mettant en danger. Donc là, effectivement, j'étais caution personnelle, mais j'ai quand même ça s'appelle une titrisation de mon risque personnel via la BPI. Ça veut dire que grosso modo, ils vont d'abord aller saisir la BPI avant d'aller sur moi, mais ça, il faut le savoir quand même. Et puis après, de toute façon, j'étais sûre de moi. Enfin, je veux dire, j'avais un contrat, il n'y avait pas de raison, ils étaient dans l'angoisse absolue. Nous, on avait les produits, on avait la main-d'œuvre, enfin, il n'y avait absolument aucun souci que ça se passe mal, quoi.
Et vous êtes pareil dans votre vie personnelle, hein, parce que vous êtes parachutiste. Vous sautez des barres rocheuses en ski, c'est ça?
Oui, je mets un petit peu d'angle sur le City Scoot Place de l'Étoile. Enfin, voilà. J'aime quand ça va vite et quand il y a de l'adrénaline, effectivement. Mais toujours sans me mettre en danger.
Et vous, Chanty, quelle a été votre prise de risque maximale? C'est à quel moment?
Alors, une des prises de risque, où je pense que c'était la plus grosse, c'est donc au début, donc je fais à la main, et à un moment donné, il faut acheter des machines. Donc, je vais voir un distributeur de machines de biscuiterie, sachant que moi, j'y connais rien, les associés n'y connaissent rien. Et je vais voir le mec et je lui explique mon concept, et il me dit, mais ce que vous faites, ça n'existe pas. Il n'y a aucune machine pour faire des biscuits avec la personnalisation comme ça. Et en plus, moi, j'étais la fille qui faisait les biscuits chez elle, il s'est dit, mais elle ne se rend pas compte, elle voit beaucoup trop grand, va faire tes cupcakes chez toi, tu vois. C'est un peu comme ça. Alors que maintenant, c'est mon meilleur ami. Et donc, il ne voit pas comment on peut faire. Mais par contre, il nous laisse tout son... Il a un truc un peu de test. Donc, il me dit, venez quand vous voulez, vous pouvez tester, etc. Donc, on va, on teste, rien ne marche. Ça ne sort pas du tout les biscuits comme je veux, etc.
Parce que vous mettiez du beurre, c'est ça? Et que d'habitude, il n'y en a pas?
En fait, les biscuits collés à la machine, il me disait, oui, mais la pâte, elle est trop grasse, il faut enlever le beurre. Vous croyez pourquoi que les biscuits industriels, ils ne sont pas les mêmes goûts que les biscuits à la maison? C'est parce que ça passe pas dans les machines. Et moi, je me suis dit, mais je ferai aucun compromis sur le goût. Et même le message, il s'imprimait pas bien dans les machines, ça sortait pas, etc. Et en fait, les machines, tu peux avoir entre un mois et six mois, voire plus de délai. Et à un moment donné, j'avais, moi aussi, c'est pareil, j'avais signé un gros contrat que j'avais féqué, oui, je vais vous livrer, etc. Je savais pas comment faire. Et à un moment donné, il faut acheter, quoi. Et donc, on fait à peu près 100 000 euros de prêts, prêts bancaires, etc. Et
alors que les machines ne marchaient pas, vous les achetez quand même?
En fait, on s'est dit, on va acheter les machines et on trouvera un moyen de faire marcher, parce que sinon, on se fait comment? On était coincé, en fait. Et donc, on achète pour à peu près 100 000 euros de machines, on reçoit tout, etc. Et effectivement, je mets la pâte dans la machine et ça ne marche pas. Et là, je me retrouve à pleurer devant la machine. C'est pour ça que ça n'existait pas, en fait. C'est peut-être pas possible. J'ai acheté pour 100 000. En fait, on faisait des biscuits à la main ou la pâtisserie à côté de la machine à 50 000 euros, tu vois.
En plus, on peut pas la renvoyer.
La machine coule.
On peut pas les renvoyer les
après la T9, il aurait pu la reprendre, mais bon, en fait, si je renvoyais la machine, j'aurais arrêté chantier de biscuit, quoi. Donc j'étais là, c'est pas possible, machin. En attendant, t'as les clients que tu dois livrer, et à un moment donné, je pense qu'une de mes forces, c'est d'avoir aucun problème pour demander de l'aide. Donc là, je vais fouiller dans les pôles agroalimentaires, machin, les ingénieurs, etc. Je trouve quelqu'un, une ingé, spécialiste de pâte à biscuits, ça existe, qui est venue et qui nous a aidé à trouver le process pour que ça passe dans la machine et qu'on ait le résultat qu'on a aujourd'hui, qui est encore plus beau et meilleur que ce qu'on avait à la main.
Mais c'est incroyable, quelle chance de l'avoir trouvé.
Et ouais, et en fait, on continue de personnaliser à la main sortie de machine, parce qu'on ne pouvait pas personnaliser sur la machine, c'est ce que le mec nous avait dit. Alors qu'aujourd'hui, on est en train d'arriver à le faire, alors qu'à la base, c'était impossible. Et c'est sûr qu'on a acheté les machines sans savoir si ça allait pouvoir marcher ou pas.
Donc, ne jamais écouter ceux qui vous disent que ce n'est pas possible.
Enfin, voilà. Et en fait, je me disais aussi, eux, ils n'ont jamais eu cette demande. Parce qu'il y a... Donc, ils n'ont jamais créé la machine. Parce qu'ils n'ont jamais eu besoin. Je me suis dit, mais en fait, c'est possible de la faire à un moment donné, quoi.
Et en parallèle, c'était hyper difficile pour vous, parce que vous aviez recruté votre première personne,
ah oui.
Vous ne vous payez plus, la machine qui marchait pas.
Ah oui, t'as les clients livrés, c'est la guerre avec les associés, etc. Tu te dis, mais on a fait les travaux dans le local, on a acheté les machines, c'est rien qui marche, c'est pas possible. Ah non, c'était pas facile, ouais.
Justement, est-ce que vous pouvez partager avec nous un moment difficile que vous avez dû affronter ? Donc pour vous, Chantilly, c'est la suite ?
C'est ce qui a suivi. Donc je m'étais associée avec deux personnes et au bout d'à peu près 6 mois, on commence à plus s'entendre et un an après, ça devient la guerre et on peut plus se parler, quoi.
Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ?
Parce
que l'entreprise est fortement en danger.
On a envie de se tirer une balle. Vraiment, j'ai pensé à tout, mais je me suis dit, ce qui m'a fait tenir, c'est que j'ai des clients livrés et j'ai une salariée. Voilà, je peux pas la planter, mais c'est sûr que j'ai envoyé des mails à mon père tous les jours. Lundi prochain, j'arrête. Je vous préviens. Hein. lundi, j'arrête. Et au bout d'un moment, je trouve des avocats qui ont réussi, des avocats plus de famille, chez qui on était. Et on a réussi à trouver un terrain d'entente pour que je rachète 3/4 de leur part. Donc, ils ont encore des parts et ça m'a permis de continuer. Mais c'est sûr, c'était des mois où j'étais là, en fait, ça se trouve, ça va s'arrêter. J'ai aucune idée si ça va continuer ou pas.
Et vous ne regrettez rien, bien sûr. Parce que ça vous a permis d'être là aujourd'hui.
Pendant plusieurs années, je m'en suis voulu de m'être associée comme ça, si vite, d'avoir donné autant de parts. J'y étais vraiment nulle, etc. Et en fait, maintenant, je me dis, sans ça, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc, ça fait partie du chemin. J'ai appris plein de choses. J'en suis sortie et tant mieux. Et j'ai pas mal raconté cette histoire de mon problème d'associée dans des podcasts, etc. Et il y a beaucoup de gens que ça a pu aider. Parce qu'il y a peu de gens qui le racontent, en fait. Et donc, je me dis, si en plus... répercussions que je peux aider d'autres personnes, et tant mieux, quoi.
Qu'est-ce que vous avez appris, justement ?
Comment tu t'associes, les histoires de pacte, etc., les implications d'avoir la majorité, qu'est-ce que ça fait ? vraiment, comment ça se passe ? Et après, comment tu t'associes, comment tu recrutes, c'est quoi le plus important ? Et j'ai fait une petite levée de fonds à peu près un an après, et ça m'a aussi aidé à choisir les investisseurs que je voulais avec moi, quoi.
Est-ce que tu as appris d'autres trucs ? Est-ce que tu as d'autres... Parce que je pense qu'on a toutes vécu ça, enfin, je sais pas ouais. Si...
Moi, ça m'a... En fait, ce qui avait été compliqué, c'était qu'aussi, c'était des mecs qui sortaient de grandes écoles, enfin, école de commerce, super job, très charismatique.
Et donc, moi, une légitimité, c'est ça ?
Exactement. Et en fait, moi, j'arrivais pas à défendre mes points de vue et me sentir à la même hauteur dans les... Tu vois, quand on se disputait sur un truc, il me disait, Chantilly, nous, on sait, en fait, on a fait une école de commerce. Et en fait, pendant longtemps, j'étais là, je vois rien, quoi. Enfin, et donc, c'est comment tu prends ta légitimité dans la boîte, avec tes salariés, etc., sachant que tu n'as pas de diplôme et qu'eux en ont. Donc, ça m'a en fait appris qu'il y a des choses, c'est... Le marketing, par exemple, c'est inné, je suis désolée, mais ça ne s'apprend pas. Enfin, il y a des trucs où c'est de l'instinct, c'est de la logique, c'est du bon sens. Et après, je pense qu'il y a plusieurs façons de gérer une boîte et... Autant leur façon, elle aurait marché, c'est juste qu'on aurait fait deux boîtes différentes et que c'est ça en fait, c'est trouver des personnes avec qui t'es hyper aligné sur la façon de faire et là où tu veux aller, quoi.
Et alors que l'ADN de la boîte, c'était vous ? Vous aviez cette légitimité-là qui était hyper importante. Ça fait du bien de vous écouter, Chantilly, parce que je pense qu'on a toutes et tous traversé des moments un peu similaires.
Mais ça a été très long. Hein. Je pense que c'est que cette année où je commence à me dire... maintenant, je le sais. Hein, tu vois, je me dis, quand il y a un truc, je pense, je vais le faire. Et si on se plante, c'est pas grave. Mais au moins, je vais au bout de mon truc. C'est pas facile d'imposer des idées quand t'as pas une expertise derrière qui valide auprès d'une équipe ou auprès de personnes qui, eux, sont diplômées. Voilà. Même maintenant, ma légitimité, c'est le temps que j'ai passé dans Chantilly Biscuit aussi. Enfin, je me dis, j'ai quand même construit ça à partir de rien, toute seule. Voilà. Ça compte pas pour rien, ce que je vais dire.
Ah non, ça compte pas pour du beurre, j'allais dire.
J'allais le dire aussi.
Christelle, et vous, est-ce que vous pouvez partager avec nous un moment difficile que vous avez dû affronter ? Je pense que c'était au tout début de votre aventure entrepreneuriale.
Oui, alors, juste après l'histoire du coiffeur, où là, ça nous assure une récurrence dans la facturation, puisqu'elle devient mensuelle, et puis 17, même si c'est le même client, c'est quand même 17 chèques. Parce qu'à l'époque, il payait en chèque, hein, et c'était pénible d'encaisser ses chèques 17 fois. Non. Bon, bref. Et il faut savoir que nous, en fait, comme on montre les gens qui font le ménage, ça a beaucoup plu au parc des expositions, à la porte de Versailles notamment, et à tous ceux qui font des grands événements. Donc, du coup, tout de suite, on a travaillé sur des salons grand public, porte de Versailles par exemple. Et il se trouve que premier grand salon, eh bien, le client final plante tout le monde. C'est-à-dire qu'il part avec la caisse. Donc ça a fait la une des journaux et tout. Hein. Il part avec la caisse, il plante la porte de Versailles, Vie Paris, pour plus d'un million d'euros. Tout le monde. Hein. Il plante les standistes, le commissariat général, enfin tout le monde, dont notamment le ménage.
Et votre entreprise avait combien de temps d'existence ?
Ah ben, ça a dû arriver, je me suis matriculée en juillet, le salon il a dû avoir lieu en septembre, enfin un truc comme ça quoi.
Donc pas de trésor derrière ?
Rien du tout, et encore j'avais eu la bonne idée, parce que je n'avais pas de trésor, de demander un acompte, sinon je l'aurais même pas demandé. Et donc je me retrouve avec un impayé de 17 000 euros. Donc 17 000 euros aujourd'hui, c'est absorbable. Hein. Mais à l'époque, là, la terre s'effondre. Et là, je me dis, mais c'est 17 000 euros, grosso modo, il y a 2 000 euros de bénéfices, donc c'est 15 000 euros de salaire. Donc comment je fais ? Donc effectivement, j'avais deux solutions. Soit je plantais ma boîte, ce que me conseillaient tous les avocats que j'ai consultés. Soit je me voyais pas regarder droit dans les yeux les personnes qui avaient travaillé toute la nuit pour nettoyer ce salon, pour le remettre en état, etc. Planter les déchets, hein, parce qu'un salon c'est des tonnes et des tonnes de déchets que vous payez effectivement à une déchetterie. Donc j'ai retroussé mes manches et je suis allée les voir un par un et j'ai dit voilà, je vais vous payer que du retard, mais je vais vous payer. J'ai mis en attente tous mes fournisseurs et en fait, comme on était tous plantés, après, il se trouve qu'il y a un espèce de truc magique qui s'est passé. Parce que Vie Paris, en fait, derrière, nous a fait tous beaucoup travailler. Parce que justement, on n'était que des petites boîtes qui maintenant sont devenues des grosses boîtes d'ailleurs, mais on était tous au balbutiement de nos boîtes, quoi. Et ça, vraiment, je les remercie. Et puis c'est aussi appeler son bailleur, dire je ne vais pas pouvoir payer mon loyer, ou en tout cas pas beaucoup. Et là, on tombe sur un mec adorable qui dit écoutez, moi, je viens de monter mon agence immobilière, je comprends, je peux vous aider, je vais temporiser avec la propriétaire, etc. Et puis surtout, c'est son propre banquier qui dit ouais, vous êtes gentil, mais moi, je vous coupe les vivres et vous aurez le droit à retirer que 20 euros par semaine.
Oh, 20 euros, ouais.
Et là, je me dis, comment je vais faire ? Donc là, évidemment, j'ai des amies merveilleuses qui m'ont dit, mais tu vas venir manger à la maison tous les soirs, tous les midis s'il faut, garde tes 20 euros pour les croquettes pour le chien. C'est l'ironie du sort, c'est que j'avais même pas de quoi payer les timbres pour envoyer mes factures. Donc je demandais à mes copines de voler des enveloppes, on décollait les timbres et qui n'avaient pas été oblitérés pour les recoller. Enfin, c'était la misère, c'était Zola. 2005. Donc depuis, je me dis que si j'ai survécu à ça, je peux survivre à tout. Donc c'est pour ça, quand le confinement est arrivé, je l'ai pris avec philosophie en me disant « Ok, bon, encore une fois... Bon, et puis en fait, encore une fois, derrière, c'était mieux. Donc voilà. Mais c'était la loose totale quand même. Mais voilà. Mais du coup, j'ai eu la tête haute. Et du fait d'avoir la tête haute, ça a impliqué qu'il y a des clients qui vous ont aidé et qui vous aident, qui sont là pour vous donner du boulot, pour vous soutenir. Et puis toujours avoir une copine qui travaille à l'administratif, qui peut vous sortir une enveloppe timbrée de temps en temps. Et sinon, pour un fait marquant, parce que Chanty disait ma première machine, moi, le jour où j'ai eu... Le jour où je me suis dit que j'ai une vraie boîte, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 5 ans, j'ai eu ma machine à oblitérer le courrier. Voilà. Donc là, ce jour-là, je me suis dit, j'ai une vraie boîte.
Mais c'est vrai que plus t'as de galères, moins après, elles t'affectent. Au fur et à mesure, tu te dis, j'ai tout vécu, en fait. Je me dis, les machines en panne, les salariés, les trucs qui marchent pas, les coupures d'Internet.
Ne pas se payer.
C'est ça.
Ouais, oui.
Mais en fait, tu t'aperçois que plus tu vas... Parce que nous, plus on avance dans le temps et plus la typologie de nos clients va sur des grands comptes. Et on s'aperçoit que sur les marques les plus connues, mais en vrai, c'est le bordel. Ils sont pas plus organisés que nous. Hein. Non, c'est...
En tout cas, ça fait un bien fou de vous écouter. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes aligné avec vous-même ? Avec qui vous êtes ?
Pas encore. Je sens qu'il y a encore du chemin à
faire. Je dirais pas encore non plus.
Ouais, il y a encore du chemin à faire.
Mais sur le bon chemin ?
Il sera bon ou mauvais, parce qu'on ne peut pas prévoir. Mais en tout cas, on l'espère, le plus adéquat possible.
Ouais, moi je pense que je suis alignée dans la boîte. Maintenant, c'est l'équilibre de toute la vie, tu vois. C'est le côté perso à rattacher.
On va passer maintenant à un portrait chinois. Si vous croisiez vous-même à l'âge de 20 ans, qu'est-ce que le vous de 20 ans, qu'est-ce que la Chanty de 20 ans dirait à la Chanty d'aujourd'hui ? Et qu'est-ce que la Christelle de 20 ans dirait à la Christelle d'aujourd'hui ?
Toujours célibataire. C'est pas possible.
Christelle,
t'es là où tu voulais être.
Ce qui vous ressource.
Ce qui me ressource, je me dirais les amis et voyage.
Un voyage avec des amis.
La discipline de vie, si vous en avez une qui vous sauve, ça peut être manger des biscuits. Hein.
Moi, c'est justement ne pas avoir de discipline, je pense. Plus je me mets un cadre, plus j'ai envie d'en sortir, donc j'arrive pas du tout. Non, je dirais dormir plus.
Alors moi, c'est tout récent, ça a un an, mais c'est toujours post-confinement où j'ai vu mes potes les uns après les autres avoir des crises cardiaques, des cancers du sang, des trucs, enfin pas possible. Où là, je me suis dit, oulalalala, je vais prendre soin de moi. Donc ça fait 14 mois que j'ai arrêté le sucre dans mes cafés. D'ailleurs, ils sont là, vous voyez. Et que je cours tous les jours une heure avec mon chien.
Respect, un encouragement qui vous a donné des ailes.
J'avais eu un encouragement qui m'avait marqué. Ça doit dater de 2019, je pense. J'avais rencontré Augustin, de Michel Augustin, qui est un peu... En fait, même souvent, quand je fais des rendez-vous, on me dit « Ah, t'es la nouvelle Michel Augustin !» Donc, c'est un peu le king, quoi. Et je le rencontre. Et il m'a félicité pour Chantilly Biscuit, etc. Et je me dis, c'est incroyable. Sa boîte, elle faisait 30 fois la mienne. Qu'il me félicite. Enfin, on avait pris un café. Et quand je suis revenue au bureau, il m'a fait livrer un énorme colis de produits Michel Augustin pour toute l'équipe avec un petit mot. Chantilly, c'est génial ce que tu fais, bravo, etc. Et je me dis, t'es vraiment reconnue par le big boss, tu vois.
Christelle ?
Moi, en fait, il y en a deux. Il y en a un qui m'énerve beaucoup, c'est que on m'a toujours dit, depuis toute petite, on m'a toujours dit, de toute façon, je ne m'inquiète pas pour toi, toi, tu réussiras. Et ça, en fait, c'est à double tranchant parce que d'un côté, vous ne pouvez pas décevoir ceux qui vous ont dit ça et qui l'entretiennent. Et d'un autre côté, vous ne pouvez pas vous décevoir vous parce que vous dites « mais attends, t'es pas faible ». Quoi. Alors qu'en fait, en vrai, on est tous faibles à un moment donné. Donc il y a celui-là. Et puis surtout, le méga encouragement, ça a quand même été de remporter le Bold. Parce que là, c'est le changement d'échelle. Et puis c'est être reconnu, en fait, par un écosystème qui est différent de celui dans lequel j'évoluais auparavant. Là, tout d'un coup, le ménage, c'est basique. Enfin, je veux dire, c'est les entreprises, c'est le monde qu'on cache un peu. Alors nous, on le montre, mais n'empêche que voilà, ça reste quand même la dernière roue du carrosse quand il y a un devis à signer. Et là, tout d'un coup, on rentre dans l'univers du luxe parce que voilà, Veuve Clicquot derrière, c'est tout le groupe LVMH, etc. Et donc du coup, c'est quand même là, je me suis dit ah ouais, quand même, ouais, j'ai une vraie boîte quoi. Voilà. Donc ça m'encourage parce que je me dis que finalement, on est très adaptable partout.
Ah, moi aussi, ce prix-là, je me dis toujours, c'est le jour le plus puissant de ma vie.
Le prix Bold Award de
Veuve Clicquot. Je me dis, t'es reconnu par LVMH, Veuve Clicquot, il y avait Antoine Arnoux en face de moi qui te dit bravo. Moi, Chantilly qui fait des biscuits dans son village perdu, avec des gros mots dessus. Il me dit, en fait, tout le monde te reconnaît en tant que rôle modèle et pour qui tu es, plus que pour ce que t'as fait, en fait. C'est ça qui m'avait touchée.
Qu'avez-vous accepté de la vie ?
Donner la vie, devenir mère. J'en avais envie, mais j'en avais très peur. Et je me disais toujours, c'est pas le bon moment. Puis le jour où j'ai un gamin, c'est le jour où j'aurai du temps. Alors, quand on est chef d'entreprise, du temps, on a tout sauf du temps. Hein. Et bien, en fait, on le prend, le temps. Parce que c'est le temps, en fait, c'est la variable d'ajustement, c'est le sommeil. Et puis, y a un moment donné où ce petit bout, je l'amène tous les matins à l'école et je vais le chercher tous les soirs. Voilà. Quitte à me remettre sur mon ordi jusqu'à minuit. Mais en tout cas, lui ne se rend pas compte que je suis chef d'entreprise.
Moi, je dirais... J'ai accepté qui je suis maintenant. J'ai mis très longtemps à vraiment... J'ai toujours trouvé la vie injuste. Pourquoi il y en a qui naissent comme ça? Moi, je nais comme ça dans cette famille, etc. Et maintenant, je me dis, tout ce qui s'est passé avant, ça m'a emmenée ici. Et je suis beaucoup plus en paix, on va dire, avec moi-même.
Votre mantra, si vous en avez un?
L'univers se met en place.
Je dirais, tout arrive pour une raison au bon moment.
Je suis bien d'accord. Merci Christelle Gimaret, merci Chantilly Baérel. Merci à vous qui nous écoutez. Un immense merci aussi à Camille Codor, Marie Jaworski pour la réalisation, Elisa Grenet pour la prise de son. Merci à Sandrine Dao, Zaya Cassel et à la Dream Team des Échos pour l'organisation de ce podcast. Si vous l'avez aimé, je vous remercie de le préciser avec un 5 étoiles et de commenter. Cela nous aidera beaucoup à continuer sur cette voie. Je suis pour ma part joignable sur Instagram et LinkedIn et j'ai hâte de vous lire. Rendez-vous dans un mois pour un nouveau podcast Elles ont osé avec les Échos. D'ici là, gardons précieusement en nous cette citation de Goethe qui correspond si bien à l'esprit de ce podcast. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie.
Hey, Denver, tired of battling the mighty pollen? We've got your back. Aspire Allergy and Sinus offers lasting allergy relief so you can chuck those temporary fixes and savor that sweet, sweet taste of victory over pollen. With same-day results and tailor-made treatment plans, we've turned the tables on allergies. Aspire patients enjoy relief that lasts for years. Schedule your appointment today at AspireAllergy.com. Turn your daily sneeze-a-thon into a breeze with Aspire Allergy and Sinus. Go to AspireAllergy.com.